Bonjour, je m'attends.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous vous proposons aujourd'hui la cinquième et dernière émission consacrée à l'histoire des conciles œcuméniques avec Olivier Clément, théologien et historien orthodoxe mort en janvier 2009. Il s'agit d'une rediffusion de l'émission du 26 septembre 1999.
Voilà une émission encore dans la série de nos émissions consacrées aux conciles œcuméniques, en compagnie toujours d'Olivier Clément, que nous remercions beaucoup d'être toujours avec nous. Et aujourd'hui, nous allons parler du 7e siècle et du 6e concile œcuménique. Le 7e siècle, Olivier Clément, est un siècle qui est troublé.
Oui, c'est un petit peu pour l'Orient ce que le 5e siècle, avec les grandes invasions, a été pour l'Occident. Au 7e siècle, l'existence même de l'Empire romain d'Orient a été compromise par l'invasion musulmane, c'est certain, qui va arracher à l'Empire toutes les régions du Moyen-Orient, puis de l'Afrique du Nord, compromise aussi d'abord par d'autres invasions. Il y a eu notamment la grande invasion iranienne avant que les musulmans viennent s'emparer de l'Iran. L'Iran a réussi à conquérir tout le Proche-Orient, à mettre la main sur Jérusalem, qui est restée en dehors de l'Empire byzantin pendant 14 ans, à s'emparer des reliques de la vraie croix et à l'amener en Mésopotamie et au-delà. Et il y a eu aussi dans les Balkans alors les invasions slaves, d'abord les invasions avares, les avares étaient un peuple de la steppe, et puis les avares ayant été vaincus, ils ont tenté de prendre Constantinople, ils ont échoué, après leur défaite leur empire s'est écroulé, alors les slaves ont déferlé et ils se sont établis dans tout cet espace, en créant des sclavinies jusqu'en dans la Grèce actuelle, jusque dans la région de Patras, jusque dans le Péloponnèse, régions qui seront péniblement reconquises par les Byzantins, qui seront en général hellénisées, mais ça a créé donc des troubles. Et au sud du Danube, se sont établis les Bulgares, et le premier empire bulgare sera un empire très dangereux pour Constantinople, posera beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez, invasion des Slaves, invasion des Bulgares qui se fixent, qui s'établissent, invasion des Iraniens au Moyen-Orient. Puis, après que les Byzantins eurent réussi un immense mouvement tournant avec l'empereur Héraclius, qui a vaincu les Iraniens, qui a reconquis Jérusalem, qui a repris la relique de la vraie croix, et il y a eu alors les invasions musulmanes, qui, elles, se sont emparées d'une manière tout à fait durable du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc c'est un siècle dur, un siècle extrêmement dur. Toute la culture bigarrée, tellement riche, complexe, de l'époque de Justinien s'effondre à ce moment-là. La vie devient beaucoup plus difficile. Mais l'Empire, petit à petit, va se reprendre. Il va se reprendre en étant amputé largement d'une moitié de ce territoire méditerranéen, toute la rive est et la rive sud de la Méditerranée, mais il se reprend. Il se reprend avec une dynastie extrêmement vigoureuse et en même temps avec des réformes sociales tout à fait intéressantes qui consisteront à créer des petites régions qu'on appelait des thèmes, qui étaient des régions avec un gouvernement militaire, d'ailleurs on sent la tension qui est très grande, et où on installe des paysans. On installe les paysans en leur donnant à chacun un domaine propre. Et ainsi, on évite la féodalisation, qui viendra beaucoup plus tard. On évite aussi le système des latifs indiens, des grands domaines qui s'étaient beaucoup développés à l'époque du Bas-Empire, à l'époque hellénistique. Et ces paysans soldats sont capables de se mobiliser très vite, quand il le faut, sur la frontière, avec des héros, n'est-ce pas, comme Digenis Acritas, c'est-à-dire qui tenaient des deux races, n'est-ce pas, mais qui en même temps étaient des combattants extraordinaires, des sortes de cosaques, n'est-ce pas. Et l'Empire se redresse. Et alors, les empereurs, au cours du siècle, surtout dans les 60 premières années, ont fait une ultime tentative pour rallier ces populations dites monophysites du Moyen-Orient, qui effectivement vont accueillir les musulmans, il faut bien le dire, avec un certain soulagement, parce que l'Empire byzantin imposait de lourds impôts et parce que la persécution de ces églises non chalcédoniennes était très dure. Et alors, pour essayer de se rallier ces populations, des compromis à la demande de l'empereur et aussi de certains hommes d'église qui cherchaient, parce que ce n'est pas facile de comprendre tout cela. Que signifie une personne, la personne du Christ, en qui il y a la volonté divine et la volonté humaine? Comment ces deux volontés peuvent s'accorder? Qu'est-ce que tout cela signifie? Et il y a donc eu deux types de formules. D'abord le monoénergisme, c'est-à-dire que sans doute, le Christ est Dieu et homme, mais quand il agit, il y a une seule action, une seule énergie, une seule action. Ça n'a pas très bien marché. Et ensuite, il y a eu quelque chose alors de plus subtil et de beaucoup plus dangereux, le monothélisme, c'est-à-dire en Christ, il y a effectivement le divin et l'humain, mais quand le Christ agit, il y a une seule volonté. Et le mot volonté couvre beaucoup de choses, la volonté. C'est aussi l'amour, c'est aussi la possibilité de connaissance, toutes ces choses, n'est-ce pas ? Et l'expression. Et le monothélisme, petit à petit, va gagner la plupart des évêques, les grands patriarcats qui subsistaient sous la tutelle musulmane, et le patriarcat de Constantinople, et même Rome, à un moment, vont adhérer explicitement ou implicitement à ce monothélisme. Et la résistance est venue d'un petit moine, car il n'était que moine et il était petit, qui s'appelait Maxime. Maxime, d'après les biographies officielles de l'Empire byzantin, était l'homme d'une grande famille noble de Constantinople, qui serait devenu moine. D'après certains documents qu'on a découverts récemment, il est possible qu'il fût plutôt un arabe du Golan. Enfin, peu importe. Il est devenu moine, et puis il a été chassé par les invasions iraniennes, puis chassé par les invasions musulmanes. Lui qui avait d'abord une vision monastique extrêmement paisible, n'est-ce pas ? Voilà, toutes choses sont inspiré par le mouvement ascensionnel de la résurrection du Christ, n'est-ce pas, il voyait le monde comme cela, s'engouffrer petit à petit, librement, dans la lumière divine. Il découvre brutalement la méchanceté, la cruauté des hommes, et aussi la liberté des hommes. Il y a une liberté, les choses ne se font pas automatiquement. Il faut choisir, il faut s'engager. Et finalement, il a été refoulé à Carthage, qui était encore byzantine, c'était quelque temps avant la mainmise des Arabes, des musulmans, et puis Carthage et à Rome, c'est là qu'il a écrit ses principales œuvres. Et il a collaboré avec le pape Martin Ier, et ils ont tous les deux patronné, pourrait-on dire, un concile du Latran. À cette époque-là, la papauté résidait à Rome au Latran et pas au Vatican. Le Vatican est venu plus tard avec un tout autre aspect des choses. Et ce concile a nettement condamné le monothélisme. L'empereur est entré en fureur, a envoyé une fois encore des troupes à Rome. Ces troupes se sont emparées du pape Martin Ier. Il a été amené à Constantinople, jugé, exilé. Et il est mort dans la misère, dans l'exil. C'est le dernier pape martyr, pourrait-on dire, n'est-ce pas ? Avant que Jean-Paul II ne soit à moitié assassiné, n'est-ce pas ? Il y a quelques années, c'est le dernier pape martyr. Et il est martyr pour la même cause qui va être celle que va défendre Maxime, qu'on appellera à cause de ça le confesseur. Et Maxime, lui aussi, va être amené à Constantinople, va être jugé, va être condamné. Il sera complètement isolé à un moment, on lui dira, mais avec qui communies-tu ? Tous les patriarches sont avec nous, et même l'évêque de Rome. L'évêque de Rome, à ce moment-là, avait une position très ambiguë. Alors tu es seul. Et il a répondu avec une sorte d'extraordinaire fierté de chrétien, mais Là où est la vérité, là est le Christ, là est l'Église, n'est-ce pas? Et donc il avait ce sentiment prophétique d'être le gardien de la vérité, même s'il était presque seul à ce moment-là. Et finalement, il sera condamné à un supplice terrible, on lui coupera la main droite et on lui arrachera la langue, pour qu'il ne puisse plus ni parler ni écrire. Et les soldats se joueront de lui, il était petit et léger, comme d'un ballon, il se le jetait l'un à l'autre, n'est-ce pas? Et puis il a été promené à travers la ville avec la bouche et le bras ensanglantés. Ensuite il a pris la route de l'exil et il est mort sur la route de l'exil des blessures qu'il avait subies. Et alors Maxime a beaucoup réfléchi sur le thème de la liberté. Et la pensée de Maxime est très intéressante à ce point de vue, n'est-ce pas? Il distingue deux libertés. Et dit-il, il y a une liberté qui est naturelle à l'homme. L'homme, dans sa spontanéité, désire Dieu. Et puis, il y a une liberté qui est une liberté de choix, d'hésitation. Et l'homme peut soit s'accorder à sa liberté naturelle, soit la refuser ou la transformer en idolâtrie. Donc il y a toute cette réflexion extraordinaire et puis de grandes synthèses. On peut dire que Maxime a fait la synthèse de la pensée des pères et a ouvert la grande pensée byzantine. Et d'une certaine façon aussi a fécondé la pensée occidentale. Mais je ne veux pas rentrer ici dans des controverses, dans des histoires compliquées. Je voulais simplement insister sur l'importance de Maxime, car après la mort de Maxime, qui est mort dans les années 60, je crois, on a continué à Constantinople à discuter énormément sur ce problème du monothélisme. Qu'en est-il exactement de la volonté du Christ? Comment peut-on accorder la volonté humaine et la volonté divine? S'il y a deux volontés, est-ce qu'elles ne sont pas nécessairement opposées? Et Maxime avait écrit de très beaux textes sur l'agonie du Christ au jardin de Gethsémani, quand la volonté humaine s'exprime, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, n'est-ce pas? Et puis finalement, il y a cette adhésion. Et c'est en cela qu'il a préparé véritablement le sixième concile œcuménique, n'est-ce pas? Il faut dire aussi qu'à la fin du siècle, les Arabes se sont emparés de l'Afrique du Nord, les Arabes se sont fixés à Cizik, près de Constantinople, et quatre, cinq ou six fois successives ont tenté de prendre Constantinople. Il y a eu un assaut extraordinaire. Et le fait que les Byzantins les aient stoppés est quelque chose de beaucoup plus important dans l'histoire que la bataille de Poitiers. Nous parlons toujours, bien sûr, de la bataille de Poitiers en France, mais le fait de la résistance de Constantinople, où était le gros, c'était pas une razzia comme à Poitiers, mais c'était le gros de l'armée arabe et de la flotte, qui ont été finalement arrêtés, il faut le dire, grâce à des découvertes étonnantes, comme le fameux feu grégeois, qui était une sorte de substance qui flottait au-dessus de l'eau de mer et qui prenait feu. Alors quand on crachait par des sortes de canons ce liquide, qui était de la naphte, très très large, je pense, sur l'eau, il prenait feu, et si on regardait bien où allait le vent, où allaient les courants, il allait incendier la flotte ennemie. Et ainsi, finalement, les Arabes ont quitté. Et à ce moment-là, l'empereur a compris que c'était fini, l'histoire des monophysites. Ils étaient chez les Arabes, qu'ils y restent, on ne pouvait plus rien. Et donc, on pouvait à ce moment-là, au contraire, essayer de rassembler tout ce qui restait des territoires, tous les territoires d'Asie mineure, tous les territoires des Balkans, autour d'une foi qui serait nette de toutes ces tentatives de compromis, pouvait-on dire.
les empereurs qui convoquent les conciles, évidemment, les empereurs qui s'intéressent à la théologie, à l'Église, mais qui, évidemment, ont des considérations toujours politiques très importantes. Et quand ils convoquent des conciles, quand ils se mêlent aux querelles théologiques, il y a derrière ça toujours le souci d'essayer de retrouver la paix de l'Empire, ou en tout cas de soutenir les intérêts de ce qu'ils pensaient être pour leur Empire.
Certainement. Certainement, mais on pourrait dire qu'ils n'ont jamais réussi à gauchir l'expression de la vérité. Comme l'a écrit un grand historien français, la culture byzantine était une culture bipolaire. Ce n'est pas un césaropapisme. Jamais les empereurs n'ont réussi à arracher un concile, ou s'ils l'ont fait, c'est plus tard, à l'époque de l'iconoclasme. Et ça n'a pas duré, ça. Donc ils n'ont jamais réussi, il y a toujours eu une résistance, cette résistance venant des moines. Les moines qui entraînaient le peuple, étant des gens qui étaient accrochés à la vérité, au-delà des intérêts de l'Empire. Y compris Maxime le Confesseur, qui est un moine de ce point de vue, et on l'accusera justement, s'il ne reconnaît pas le monothélisme, de trahir l'Empire, d'ouvrir l'Empire à toutes les invasions. Et c'est comme tel qu'il a été condamné. L'hérésie, là, n'était qu'un prétexte. C'est ce mélange, n'est-ce pas, du religieux et du politique qui caractérise, bien sûr, le 7e siècle.
Mais l'Esprit Saint souffle.
L'Esprit Saint souffle, exactement.
Et donc, en 680, ce concile est convoqué.
Ce que voulait l'empereur, qui venait d'écraser les Arabes, qui venait de sauver Constantinople en 677. Là, la flotte arabe s'était retirée, elle avait été secouée par la tempête et détruite par la flotte byzantine. Ce que voulait l'empereur, d'abord, il s'est dit, ce qu'il faudrait avoir, c'est une conférence de théologiens. Nous allons réunir des théologiens, les uns qui sont monothélites, les autres qui sont maximiens, pourrait-on dire, et puis on verra bien, n'est-ce pas, on verra bien. Et alors, il écrit au pape, en août 78, qu'il qualifie de pape œcuménique, d'ailleurs, pour l'inviter à envoyer des représentants à cette conférence. Mais quand la lettre arrive à Rome, le pape Donus est mort, et Agathon, les communications étaient lentes. C'est pas le monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Pour aller de Constantinople à Rome, il fallait du temps et il fallait traverser la mer. Et en général, on ne traversait pas l'hiver, on attendait le printemps suivant. Agathon s'est beaucoup intéressé à ce qu'a dit l'empereur. Il était dans la ligne de Martin Ier, il voulait véritablement finir avec le monothélisme. Et il a provoqué une consultation de tous les évêques d'Occident. Et il a écrit à tous les métropolitains de réunir des petits conciles, des conciles provinciaux, grande consultation, et cette consultation va être synthétisée par Agathon, qui va envoyer, comme Saint Léon à Calcédoine, un message à l'empereur. Mais à l'empereur Constantin IV. Mais à ce moment-là, quand les conciles, les réponses occidentales parviennent à Rome, il n'est plus question d'une petite conférence de théologiens. Tout le monde dit qu'il faut un concile. Voilà ce qu'a dit l'Occident, voilà ce que nous allons dire en nous unissant à l'Occident, donc il nous faut véritablement un concile. Et le patriarche, qui était un petit peu monothéliste, est renvoyé, un nouveau patriarche est élu, qui est beaucoup moins favorable au monothélisme, et un concile, à ce moment-là, est convoqué. Concile qui se réunit en novembre 80, dans la salle, une salle du palais, la salle qu'on appelait Intrullo, c'est-à-dire sous la grande coupole, une grande coupole dorée, où se réunira un autre concile, n'est-ce pas, un peu plus tard. Dès la première session, ils dirent, nous sommes un concile, tous les évêques, tous les théologiens qui étaient là. L'empereur a ouvert le concile, à sa gauche. La gauche était la place d'honneur à Byzance, n'est-ce pas? N'oublions pas. À sa gauche, il y avait les trois représentants du pape et le vicaire patriarcal de Jérusalem. À sa droite, le patriarche de Constantinople, le patriarche d'Antioche Macaire, qui était un homme ambigu, n'est-ce pas? Et les représentants d'Alexandrie. Et au centre, devant le trône impérial, puis sur ce trône, car l'empereur n'a été présent que pendant les premières séances, il y avait les évangiles. Il y avait les évangiles, ce qui est toujours représenté sur les icônes et qui est d'une très grande signification. 174 évêques signeront l'Oros, donc la formule finale, le 16 septembre 681. C'est curieux de voir que ce concile a travaillé d'une manière extrêmement honnête et minutieuse. On a d'abord confronté les témoignages patristiques. Chaque partie a présenté une collection de textes patristiques, ce qui prouve d'ailleurs qu'à cette époque-là, on considérait que l'époque patristique était close. Elle était close, on y puisait des arguments. Chacun a apporté son anthologie de textes patristiques. Et des anthologies intelligentes où on remettait les textes dans le contexte doctrinal de l'époque. Le principal défenseur du monothélisme, c'est ce Macaire d'Antioche que j'évoquais tout à l'heure et qui se réfère à la conception de Saint-Denis d'Aréopagite, effectivement, selon laquelle Dieu le Verbe incarné effectuait ce qui était divin non comme Dieu et ce qui était humain non comme homme, mais il accomplissait une certaine opération, énergie, divino-humaine, théandrique, nouvelle. On peut dire que, alors, les gens, le concile a dit, non, vous identifiez l'hypostase, la personne, et la volition, et la volonté. Or, il faut différencier. Enfin, toutes les paroles du Christ, humaines et en même temps divines, étaient prononcées par un seul. Donc, il faut parler ici d'accord et non pas de confusion. L'humain et le divin ne se fondent pas dans une unique énergie théandrique. Il y a deux énergies qui sont accordées. Ça devient extrêmement subtil, n'est-ce pas, tous les raisonnements de ce concile. Macaire est condamné. On constate d'ailleurs qu'il avait un petit peu truqué ses citations patristiques. Il l'avoue lui-même. Et il se passe là alors quelque chose de très curieux qui prouve que nous sommes déjà au Moyen-Âge. Ce n'est plus la période de Justinien, qui était une période très moderne, au fond, n'est-ce pas, avec le pour, le contre, l'esprit critique. Un partisan de Macaire et du monothélisme, un prêtre, dit « Moi, j'ai eu une vision, et Dieu lui-même m'a dit que le monothélisme, c'est la vérité. Et je vais le prouver, qu'on apporte un cadavre, et je vais lire le texte de Macaire, et le cadavre sera ressuscité. » Et là, on a apporté un cadavre. Pendant 2 heures, il lui a parlé à l'oreille, en lisant les textes de Macaire, il ne s'est rien passé. Alors, il a été renvoyé, il a été déposé, et le concile va finalement rédiger un texte dogmatique, en confirmant les conciles œcuméniques, en confessant toujours la même chose, la foi des pères de Nicée, de Constantinople et de Chalcédoine. Et je cite, « Nous professons en Christ deux volontés ou volitions naturelles et deux opérations, énergie naturelle, sans division, sans changement, ce sont les adverbes de Chalcédoine, sans séparation, sans confusion, et deux volitions naturelles non pas opposées, qui n'en soient pas ainsi, mais sa volition humaine adhérant à sa volition divine, à laquelle elle n'est pas contraire, ni ne s'oppose, mais se remet. Nous glorifions dans le même Seigneur Jésus-Christ, notre vrai Dieu, deux énergies naturelles, sans division, sans changement, sans séparation, sans confusion, c'est-à-dire l'énergie divine et l'énergie humaine. Ainsi que le dit le pape Léon, et alors chaque nature reste elle-même, l'une et l'autre nature veut et opère ce qui lui est propre en communion avec l'autre. » Intéressant, c'est de voir la répétition de la formule de Chalcédoine qui est appliquée à tout ce que le monde moderne aimerait garder pour définir la personne, c'est-à-dire la volonté, c'est-à-dire l'action, la volition, etc. Ce qui prouve à quel point, pour les pères de ce concile, la personne transcende, pourrait-on dire, toutes ses facultés. Bien sûr, elle les assume, elle leur donne sa propre coloration, mais elle les transcende. C'est extrêmement intéressant au point de vue théologique. C'est-à-dire que la personne, dans la mesure où elle s'enracine en Dieu, où elle est l'image de Dieu, n'est conditionnée par rien. Même sa volonté même les conflits qu'elle peut entretenir à ce niveau-là, ça n'est pas elle. Elle est au-delà. Et étant au-delà, elle peut alors adhérer librement à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a deux volontés. Il y a deux volontés pour sauver la liberté de la volonté humaine. Ça aussi, c'est une chose extrêmement intéressante. Comment peut se faire cet accord? Est-ce que ces deux volontés se contredisent? Non. Le Christ, à Gethsémani, finalement, a adhéré à la volonté du Père. Et donc, les deux volontés s'accordent dans le mystère de la foi, dans le mystère de l'amour. Dans ce concile, qui est difficile, je veux dire, dans l'expression théologique, et peut nous apparaître difficile, est en réalité extrêmement intéressant, parce qu'il fonde la réalité de la liberté humaine. De la liberté humaine pleinement en Christ, et pleinement en nous, dans la mesure où nous sommes en Christ.
Merci beaucoup Olivier Clément, nous avons fait avec vous un long périple qui commençait au début du 4e siècle pour arriver aujourd'hui à la fin du 7e. Nous vous remercions beaucoup. Pour terminer, on va conseiller une lecture concernant Saint Maxime le Confesseur, ce petit moine qui a tant offert à l'Église par sa pensée, par ses écrits, par son martyr même. Donc La divinisation de l'homme selon Saint Maxime le Confesseur par Jean-Claude Larcher aux éditions du Cercle.
C'était une rediffusion de l'émission du 26 septembre 1999. Notre prochaine émission, dimanche 14 mars. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.com.
Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bienvenue sur France Culture pour ce nouveau service protestant. Le culte de ce deuxième dimanche du temps de carême est célébré par Annie Noblesse Rocher, pasteur de l'église évangélique luthérienne de France et professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Aujourd'hui avec elle, nous montons sur la montagne de la transfiguration de Jésus.
Bonjour, soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez pour ce culte dominical. Nous allons ensemble quitter pour un peu de temps la plaine de nos jours ordinaires, laisser derrière nous les jours de neige et de froid, les jours d'inquiétude, et gravir ce matin une montagne, la montagne de la Transfiguration. Voilà, me direz-vous, un épisode bien étrange, incompréhensible à vues humaines. Cette transfiguration de Jésus. Comment peut-il ainsi changer de visage, resplendir de gloire fulgurante, subitement? Pourquoi? Oui, voilà un épisode de la vie du Christ qui semble à première vue bien loin de la nôtre, au cœur de ce long hiver. Et pourtant, dans ces lignes d'évangile rapportées par Luc ce matin, il y a l'un des plus beaux enseignements sur notre vie à venir et sur la prière. Alors laissons-nous entraîner, comme Pierre et Jean, laissons-nous entraîner par Jésus sur cette montagne. et pour nous accompagner ce matin dans notre méditation, Mendelssohn, comme vous l'avez entendu, la symphonie numéro 5, symphonie dite de la Réformation, et ses motets, mais aussi les prières de la règle de nos sœurs diaconesses de Reuilly. Soit à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu t'élances vers lui comme l'alouette dans le ciel. La pesanteur n'est plus, ne subsiste qu'un chant.
Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Éternel est son amour.
Jubilation et plainte, aveux et repentir, révolte et confiance. Disent à celui qui est que nous cherchons comme l'oiseau sauvage à émigrer en lui. Simplement, orienter le cœur là où est son trésor. Telle est la discipline ordinaire, l'art familier de l'amour. Détendre l'arc. Dégage-toi, dans la mesure où tu t'engages sans compter. Prends de la distance, dans la mesure où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et profond se